été à l'université est censé comprendre ce que c'est qu'une religion et ce que c'est que la modernité. Et cependant, ces deux mots sont générateurs de beaucoup de confusion et de beaucoup d'incompréhension, et générateurs aussi de beaucoup de conflits par les temps que nous vivons, aussi bien d'ailleurs dans des sociétés éloignées, comme en Inde en ce moment. Les hindous et les musulmans sont en train de vivre des conflits mortels pour des raisons qu'ils considèrent comme religieuses, les uns et les autres. Et dans d'autres lieux du monde, il y a des conflits attribués à ce que communément on appelle la religion. Et les sociétés européennes elles-mêmes ne sont pas à l'abri de ces phénomènes qui sont dus à ce que les sociologues appellent le retour parmi nous du religieux. Et cette expression « retour du religieux » ou « réveil des religions » sont des expressions employées dans les sociétés occidentales, et elles impliquent déjà, voyez-vous, un certain regard sur la religion. Quand on dit « retour du religieux », cela veut dire que la religion avait disparu à un moment donné. On n'en parlait plus. Ça n'était pas quelque chose d'actualité. Et voilà qu'elle redevient un sujet d'actualité dans des sociétés qui croyaient l'avoir liquidée ou mise de côté ou privatisée. C'est effectivement ce qui est arrivé dans plusieurs sociétés occidentales, et voilà pourquoi en Occident on parle de retour du religieux. Mais dans d'autres sociétés, en particulier les sociétés musulmanes ou les sociétés comme l'Inde, justement, le religieux ne revient pas. Il a toujours été là et il est encore là. Il prend une importance nouvelle. Il prend d'autres expressions dans l'évolution actuelle des sociétés. Et qui rend compte à nos contemporains de ces évolutions en cours, devant nous, et partout, je le répète, du phénomène religieux? Principalement les journalistes. Ce sont les journalistes qui sont les médiateurs des événements qui affectent un grand nombre de sociétés, et tout particulièrement les sociétés musulmanes. Quand il y a des élections en Algérie, ou quand se produit un événement considérable en Iran, ou quand s'ouvre la crise du Golfe que nous venons de vivre, ce sont d'abord les journalistes qui rapportent les propos des citoyens, ce que disent les citoyens de ces différents pays. Et ces citoyens parlent évidemment de l'islam. Et ils ont des références constantes à ce qu'ils appellent l'islam. Et ceci est écrit dans les journaux, très sérieux, dans les magazines, dans des revues. C'est dit dans la télévision, dans la radio. Et voilà tout un ensemble de représentations qui sont diffusées très largement dans la société sur ce que la société va nommer le religieux. De grands journaux, comme le Nouvel Observateur en France, ont de très gros titres de couverture qui sont affichés dans toutes les stations de métro, comme vous le savez. C'est une très grosse publicité. Faut-il avoir peur des religions? Voilà le titre, le gros titre de couverture, hein. Faut-il avoir peur des religions? Voilà comment on présente aux citoyens d'aujourd'hui ces phénomènes complexes, considérables, qui correspondent à une phase historique de nos sociétés. Et c'est dans les sociétés où la pensée dite moderne, où la modernité sur laquelle nous allons parler, a été produite et est censée être vécue. L'Allemagne, l'Amérique, l'Angleterre, la Suisse, la Suède, la Finlande, etc. Ce sont les lieux de production, depuis le XVIe siècle au moins, de ce que communément nous nommons la modernité. Et voilà pourquoi les citoyens qui reçoivent ces informations par les médias ont le sentiment que ces informations sont suffisamment contrôlées et filtrées par cette pensée moderne qui est le bien commun de ces sociétés. On m'a appris à l'école, on m'a fait des études, à l'université. Vous voyez que lorsque on aborde le problème des religions et de la modernité, de cette façon concrète, quotidienne, que chacun de nous expérimente chaque jour en ouvrant le bouton de télévision ou en ouvrant le journal. Cette manière-là dont nous vivons à la fois ce qui relève du religieux et ce qui relève de la pensée moderne. Cette manière-là n'a rien à voir ni avec le phénomène religieux, ni avec la modernité. Voilà une première constatation que l'historien peut faire, que le sociologue peut faire, que l'anthropologue peut faire, que l'historien des religions peut faire, et que le politologue, s'il consent à dépasser cette vision de courte durée qui l'enferme dans l'actualité immédiate pour regarder justement ces phénomènes à la manière de l'historien ou de l'anthropologue, ben le politologue lui-même ne serait plus d'accord avec la façon dont il est rendu compte de ce qui nous est présenté comme étant la religion ou les religions d'une part et la modernité d'autre part. Voilà pourquoi il faut recommencer tous les parcours si nous voulons vraiment parler sérieusement de tous les enjeux de signification qui s'attachent à la confrontation historique et depuis très longtemps entre les religions et la modernité. Alors pour faire tous ces parcours-là, la première chose est de savoir par où faut-il commencer. Est-ce que nous allons commencer par les religions parce qu'elles ont été les premières historiquement et que ce sont elles qui ont façonné la pensée, la culture, les modes de perception de toutes les sociétés, sans exception, car il n'y a pas de société qui n'ait pas sa religion, que ce soit une religion de type traditionnel, avec des divinités, ou un seul Dieu, ou que ce soit ce que les sociologues appellent les religions séculières. Le marxisme dont nous sortons seulement a fonctionné pendant près d'un siècle comme une religion, avec ses cadres, avec ses évêques, si je puis dire, avec ses dogmes, avec ses textes de référence, avec son rituel. Faut-il commencer par les religions quiconque pour voir qu'est-ce qu'elles ont enseigné et qu'est-ce qu'elles ont produit, pour passer ensuite à la modernité, puisque historiquement, la modernité s'est introduite tardivement dans un espace déjà occupé et travaillé par les différentes religions. Ou bien faut-il méthodologiquement commencer par s'interroger sur cette modernité justement, qui est la raison essentielle de tous les changements radicaux qui sont intervenus d'abord dans l'espace historique, intellectuel, culturel européen. Et commençant par cet événement qui est la modernité, acquérir, avoir en main les outils nécessaires pour pouvoir revenir au domaine religieux et l'explorer, l'analyser, le comprendre, justement comme l'exige la pensée moderne. Voilà le dilemme. C'est un dilemme méthodologique. Et dans une recherche scientifique, il faut toujours se poser la question par où commencer. D'autant plus que tout le monde peut parler de religion et tout le monde est habilité en particulier à parler de sa religion. Et l'on dit même que nul n'est habilité à parler d'une religion s'il n'en parle pas du dedans. J'ai même entendu un ministre de l'Éducation nationale français dire que s'il fallait introduire un enseignement de l'histoire des religions dans les lycées, la question se poserait de savoir qui pourrait donner un tel enseignement, parce qu'on verrait les adeptes de chaque religion venir objecter que pour parler adéquatement d'une religion, il faut appartenir à cette religion. Vous voyez, c'est une autre manière de poser la question par où commencer lorsqu'on veut confronter le problème posé, les problèmes posés par les religions et par la modernité. Eh bien, je fais l'option méthodologique de commencer par la modernité. Parce que, effectivement, c'est elle, non pas qui va nécessairement nous fournir tous les instruments de travail, tous les outils de pensée nécessaires, mais en tout cas, historiquement, c'est elle qui a bouleversé les systèmes de pensée, les visions du monde, les pratiques des sociétés en relation avec les différentes religions. Mais alors, s'il faut partir de la modernité, il faut être au clair avec ce qu'est la modernité. On dit beaucoup de choses sur la modernité. Et communément, on dit que quelque chose est moderne lorsque c'est très récent, c'est de production récente. C'est nouveau par rapport à ce que l'on a connu auparavant. Ça, c'est le sentiment immédiat que chacun éprouve lorsqu'on dit moderne. Quelque chose est moderne. Mais cette définition, évidemment, ne peut pas nous satisfaire. Elle est trop approximative, trop pragmatique, et elle ne descend pas dans l'essentiel de ce qu'est la modernité. La modernité n'est pas non plus cette opposition que l'on rencontre très souvent, même chez les spécialistes, qui consiste toujours à distinguer la tradition d'un côté et la modernité de l'autre côté. En présentant toujours la tradition comme passéiste, comme ce qui appartient à un passé révolu, et la modernité comme ce qui est actuel, ce que je peux utiliser maintenant, qui est valable, et surtout ce qui est considéré comme un progrès, comme une projection vers l'avenir, alors que la tradition nous tire vers le passé. Ça aussi, c'est une approche très courante, il y a beaucoup de livres là-dessus qui présentent les choses ainsi, mais je ne retiens pas non plus cette manière de traiter et la tradition et la modernité. En fait, la modernité, c'est ce qui travaille constamment et dans tous les temps, toutes les sociétés. C'est le travail historique de soi sur soi, de chaque société, qui sans cesse accepte un certain nombre de valeurs, de comportements, qui vont constituer la manière commune, communément acceptée, d'agir et de penser, et de croire, et qui va alimenter justement ce qui deviendra la tradition vivante. Et puis, au sein de ce travail de production de la tradition, il y a des mouvements de transformation. Il y a des mouvements qui viennent contester ou parfois fracasser des systèmes parfaitement établis de croyances, de pensées, d'actions historiques dans les sociétés. Lorsque Jésus de Nazareth prend la parole en Palestine, dans une société juive, de tradition juive, et qu'il prononce ses premières paroles, il fait un acte de modernité. Parce que il modifie le fonctionnement de la tradition juive telle qu'elle était reçue, admise, défendue, utilisée par les rabbins juifs, les gestionnaires de cette tradition que sont les rabbins. Nous sommes au premier siècle, au début. Nous sommes dans une société très ancienne et vous voyez qu'il y a un phénomène de modernité qui se produit dans cette société religieuse extrêmement ancienne. Il y a une rupture à la fois par rapport à la pensée païenne représentée par la pensée grecque et romaine de ce temps-là et rupture par rapport à la symbolique religieuse utilisée dans la tradition juive. Cette rupture est un phénomène de modernité. Si nous prenons l'islam avec le prophète, c'est un phénomène de rupture considérable, donc de modernité au sein de la société arabe, de la même façon. Je ne vais pas insister, mais on peut décrire cette intervention à la fois dans la tradition religieuse, plongeons jusqu'au prophète d'Israël. Je reprends le Coran. Et aussi par rapport à la pensée dite païenne, attention au mot païen, nous sommes anthropologues, nous ne sommes pas théologiens, parce que c'est une expression religieuse que le Coran va discréditer justement. Eh bien, c'est une rupture par rapport à cette expression religieuse antérieure que le Coran va s'efforcer de remplacer. Et le discours coranique porte la trace des luttes qui ont été menées à la fois par le discours et sur le terrain pour substituer un ordre nouveau, une pensée nouvelle, une vision nouvelle par rapport, encore une fois, à celle qui existe. Et ainsi de suite, je peux continuer à vous donner de très nombreux exemples dans des sociétés différentes de ces surgissements d'idées, de ces surgissements de pratiques historiques, culturelles, qui modifient l'attitude d'une société vis-à-vis de ce qu'elle considère comme ses valeurs. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui distingue donc la modernité que nous vivons maintenant par rapport à toutes les modernités successives que l'on peut rencontrer ainsi dans toutes les histoires de toutes les sociétés? Mais j'espère quand même avoir éliminé de votre esprit l'idée que la modernité est un phénomène unique, lié au temps récent, et lié surtout, essentiellement, à ce que nous appelons l'Occident ou l'Europe. Ça, s'il vous plaît, non. Reste quand même à savoir, ce qui nous interroge tout particulièrement, dans la modernité que nous vivons maintenant. Alors là aussi, je n'ai pas le temps, vous voyez, je peux parler ainsi rien que sur la modernité pendant toute la causerie, mais il y a l'autre côté, les religions. Mais tout de même, même en Occident, dans nos enseignements, même au niveau universitaire, nous ne faisons pas une distinction très claire entre ce que j'appelle la modernité de l'âge classique et la modernité que nous produisons depuis les années 1950. La modernité de l'âge classique, c'est celle qui a été produite en Europe dans la lignée de la réforme protestante vis-à-vis de l'Église catholique et de la pensée catholique, d'une part, et dans la lignée de la Renaissance, des cultures gréco-latines à partir de la... du XVIe siècle, en traversant les grands événements du XVIIIe siècle, des révolutions anglaises et des révolutions françaises, qui modifient tout de même en profondeur le paysage mental, en particulier en ce qui concerne justement le fonctionnement des religions et en particulier le fonctionnement du christianisme en Europe. L'événement de la Révolution française est à cet égard tout à fait décisif. Je ne vais pas y insister, nous sommes censés le connaître et être familiers. Mais il mérite, je vous assure, beaucoup d'analyses et de mise au point. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est l'événement, ou plutôt l'ensemble d'événements de type intellectuel et culturel qui interviennent à partir des années 1950. Pourquoi 1950? Parce que il intervient en Europe un phénomène historique qui n'est pas encore entièrement digéré par la pensée européenne. C'est le phénomène que l'on a nommé de décolonisation. Pourquoi est-ce que ce phénomène est important par rapport au problème dont nous parlons, c'est-à-dire la modernité? Parce que la pensée européenne, pendant le XIXe siècle, a vécu sur une double idée de la modernité, qui n'a pas fait l'objet d'une critique intellectuelle suffisante. La première idée, c'est que la modernité produite en Europe, du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, est une modernité universelle. Elle vaut pour tous les hommes. Ce qui a permis de justifier l'entreprise coloniale. L'entreprise coloniale a été présentée et vécue comme une entreprise d'extension du progrès scientifique accompli par cette modernité à des sociétés restées primitives, arriéré. Ça, c'est l'idée essentielle que l'on peut trouver chez des savants, en particulier les ethnographes et les ethnologues, et aussi les historiens et tous les théoriciens de la colonisation, suivi par la pensée religieuse chrétienne sous ses formes protestantes et catholiques, qui considéraient que les autres religions sont des religions fausses et qu'il faut autant que possible accompagner l'introduction de la modernité par l'introduction de la religion vraie. Le christianisme sous ses deux formes catholique et protestante. Ceci a été vécu jusqu'aux années 50. L'Algérie a été indépendante en 1962. Je vous le rappelle. Et je vous renvoie aux journaux français et aux débats sur ces problèmes-là dans les années 50. Donc le phénomène de la décolonisation représente une rupture. Et cette idée-là d'un humanisme et d'une modernité universalisable aux autres sociétés va recevoir un démenti de l'histoire. Et le deuxième aspect critique de cette modernité, c'est justement le surgissement des cultures, le surgissement des histoires de ces sociétés considérées jusque-là comme primitives ou archaïques, et qui vont avoir une histoire et revendiquer une histoire au même titre que les sociétés européennes. Ce phénomène-là n'est pas encore digéré, comme je l'ai dit, par la pensée d'Occident, puisque nous continuons à avoir des catégories tranchées entre, par exemple, c'est le langage officiel, les 7 pays les plus riches du monde, d'un côté, et les sociétés du tiers-monde de l'autre côté. Les pays industrialisés et développés d'un côté, les pays sous-développés de l'autre côté. Il y a là des choses, il y a là des postulats philosophiques sur ce qu'est l'histoire des sociétés, sur ce que sont les cultures, qui évidemment ne sont plus acceptées par l'anthropologie contemporaine. Mais cette anthropologie contemporaine n'a pas fait suffisamment d'adeptes à l'intérieur des sociétés occidentales elles-mêmes. C'est en ce sens que la modernité que nous produisons depuis les années 50 est une modernité qui, jusqu'à présent, affecte essentiellement les milieux de la recherche scientifique. Elle n'est pas suffisamment diffusée. Et lorsqu'on parle de ces problèmes-là devant un grand public, vous savez l'objection que l'on fait tout de suite, attention, attention, ça c'est trop compliqué, vous allez fuir le public. Jusqu'à présent, vous n'avez pas fui, ça prouve quand même qu'on peut aborder ces problèmes-là sans faire fuir le public. Mais c'est ce qu'on dit, en particulier lorsqu'on aborde ces problèmes justement dans les médias, pour essayer de diffuser plus largement ces idées. En quoi consiste l'originalité de la modernité que nous sommes en train de vivre? Ça se résume dans la phrase suivante, que je vous demande de considérer avec tout le sérieux qu'elle mérite. La raison, car la modernité, c'est ce qui concerne le devenir de la raison humaine. C'est la raison humaine qui est en jeu. C'est le travail accompli par la raison humaine qui est en jeu. Et c'est le changement historique des outils de la raison, des postulats de la raison, des types de rationalité produits par la raison. C'est cela, l'essence de la modernité. Et voilà pourquoi, personnellement, je n'aime pas ceux qui parlent de post-modernité, ou de nouvelle modernité, ou de pré-modernité. Parce que là, comme je vous l'ai expliqué, ça concerne les changements qui affectent notre esprit lui-même. Et ce qui distingue radicalement le fonctionnement de la raison aujourd'hui, lorsqu'elle fait un acte de connaissance sur un domaine de connaissance quelconque, Ce sont les constatations suivantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie ultime. Il n'y a pas de nécessité fondatrice. Je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas, pour la raison toujours, d'ancrage dernier. Et il n'y a pas de justification réflexive radicale. C'est très fort tout ça. Ça balaye tout. Ça balaye tout. Et si nous prenons au sérieux ceci, ça veut dire que nous ne pouvons plus, justement, parler des religions comme on en a parlé jusqu'ici. Et comme on en parle encore, de façon inadéquate. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de garantie ultime. Ceci vise quoi? Ceci vise la croyance séculaire de la raison, implantée par la parole de Dieu, révélée aux hommes par les prophètes. Que la garantie ultime, au-delà de laquelle on ne peut pas aller, qui fait que ce que la raison dit est valide, acceptable pour tous les hommes, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et pendant des siècles, la raison a fonctionné comme une raison théologique à l'intérieur de ce que le théos, Dieu, a enseigné à cette raison comme étant la garantie ultime de tout ce que la raison va nous proposer comme système de vérité dans tous les ordres de notre existence politique, éthique, juridique, économique, sémantique. Garantie ultime, tout est garanti par Dieu. Nécessité fondatrice. La nécessité fondatrice, c'est l'existence de Dieu. Dieu existe. Il est vivant. Il a parlé aux hommes dans l'histoire. C'est lui la nécessité fondatrice de ce que la raison dit et enseigne. Et ceci a fonctionné et continue de fonctionner pendant des siècles. Chez les musulmans, ça fonctionne, mais d'une manière qu'il faudrait analyser, bien sûr. Et tous les problèmes viennent de là, du manque d'analyse. L'ancrage dernier de ce que dit la raison, l'enracinement, c'est l'enracinement ontologique de ce que la raison enseigne. Et l'enracinement ontologique, ça peut être l'ontologie enseignée par la parole de Dieu recueillie dans la révélation, Bible, Évangile, Coran, pour nous en tenir aux religions du livre, aux religions révélées ou dites révélées, ou bien l'enracinement dans l'ontologie métaphysique qui provient de la ligne grecque de la pensée philosophique. Et qui va continuer en Occident comme en Islam, sous le nom de métaphysique classique. Et voilà que la raison, actuellement, a bousculé, aussi bien l'ancrage ontologique venu des Écritures saintes, que l'ancrage ontologique venu de la métaphysique. Cela ne veut pas dire que la raison est en l'air. Cela ne veut pas dire que nous sommes dans le vide. Cela ne veut pas dire que nous vivons dans le désespoir. Pas du tout. Parce que cette raison-là, si elle reconnaît qu'elle est incapable, par ses propres ressources, de désigner pour tous les hommes, ce qui peut rendre ces enseignements justement universels comme on le croyait au XIXe siècle et au XVIIIe siècle. Si la raison reconnaît cette impossibilité de trouver un ancrage valable pour tous, ce n'est pas pour se croiser les bras et démissionner et dire maintenant c'est comme ça, tout est foutu, c'est l'anarchie, c'est l'anomie, comme disent les sociologues. Pas du tout. Il y a dans cette attitude de la raison, aujourd'hui, dans notre modernité, premièrement, un acte d'humilité que la raison positiviste du XIXe siècle n'avait pas. Elle avait tant d'arrogance qu'elle a nourri et justifié le mouvement colonial. Aujourd'hui, non. On ne se permettra pas d'aller parler de la culture d'une société africaine ou asiatique comme on en avait parlé au XIXe siècle. Mais je vous fais remarquer au passage que cette raison, qui n'est pas moderne et qui a conservé de l'arrogance, continue à parler aujourd'hui en Europe de l'islam, de la religion musulmane et de la culture musulmane de cette manière justement méprisante, condescendante, que nous lisons dans tant de journaux et même tant de livres. Cet acte d'humilité de la raison moderne, par conséquent, n'est pas encore le lot de tous, hélas. À partir de cet acte d'humilité, il y a un acte de confiance. La confiance dans la nécessité et la possibilité de s'attaquer pour la première fois dans l'histoire à un travail que la raison n'a pas encore fait jusqu'à présent. Et le chantier est si immense, la tâche est si mobilisatrice que la raison, bien loin, je vous l'ai dit, de se sentir livré à quelque désespoir, trouve au contraire une dynamique nouvelle parce qu'elle tient quelque chose de concret. Elle tient des possibilités qui ne sont plus seulement des spéculations formelles d'un humanisme formel et idéologique. Elle sait, cette raison, qu'elle peut mettre en échec par sa critique dissolvante toutes les dérives idéologiques des religions, et qu'elle peut, en reprenant cette fois-ci avec des dossiers bien instruits et des documents sérieux, l'étude des religions dans leur ensemble, une science des religions. Et une science des religions qui, nécessairement, est une science des cultures. Parce que les religions ont informé et formé les cultures des sociétés. Et cette étude va être entreprise avec des méthodes nouvelles, avec des regards nouveaux, avec une tolérance qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent, en particulier dans ce qui concerne l'étude des religions. Et j'attire votre attention sur le fait que ce programme-là, d'une étude comparée, historique, analytique, anthropologique, de l'ensemble des religions, aussi bien du passé que d'aujourd'hui, les religions mortes aussi bien que les religions vivantes, cette entreprise-là commence bien sûr à se répandre dans nos universités, mais très insuffisamment encore. Il suffit de voir combien d'étudiants viennent suivre les cours de l'Institut d'Histoire des Religions et des Sciences des Religions qui a permis cette soirée aujourd'hui, qui a organisé ce colloque à Lausanne. Et je connais à peu près tous les départements d'histoire des religions en Amérique et en Europe. Je puis vous dire que ce programme ouvert et neuf d'études des religions n'est pas encore tout à fait mis en chantier. Il est mis en chantier par un certain nombre de chercheurs individuels qui comprennent la nécessité, l'urgence et les enjeux d'une telle recherche. Mais ça n'affecte pas encore le fonctionnement des institutions universitaires. Et elle affecte encore moins le système éducatif tel qu'il fonctionne dans nos lycées et collèges. L'enseignement de l'histoire des religions, en France, par exemple, a été, comme vous le savez, éliminé par une conception militante de la laïcité. Il y a là tout un contentieux considérable que la pensée française et la société française est en train de découvrir à la faveur des problèmes nouveaux introduits par les musulmans en France. Et les Français sont en train de découvrir l'aspect positif de la présence de l'islam en France, qui oblige la pensée française à remettre en chantier toute la philosophie de la laïcité dans la perspective de cette rationalité moderne que je vous ai indiquée et qui fait justement de très grands progrès, en particulier grâce à des chercheurs français, des historiens français, des linguistes français, des anthropologues français, des critiques français de la raison politique, etc. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer dans un pays. Mais, comme vous le voyez aussi, l'histoire des religions n'est pas encore réintroduite dans le système éducatif, ni même au niveau de l'université. Et c'est pourtant quelque chose de tout à fait essentiel. Mais vous me direz, cet ensemble des religions, comment les regarder et comment les étudier toutes dans un institut d'histoire des religions et des sciences des religions? Ici, il y a évidemment beaucoup de difficultés à vaincre. Lorsque vous regardez une affiche ou bien la brochure qui donne la structure d'un institut, je vois mon ami Jacques Vardenbourg qui sourit, parce qu'il sait de quoi je vais parler. Lorsque vous consultez une affiche, vous voyez un certain nombre de professeurs spécialisés qui donnent des enseignements. Enseignement du bouddhisme, enseignement de l'hindouisme, enseignement du shintoïsme, enseignement de protestantisme, enseignement, etc. Toutes les religions défilent. Et chacun enseigne sa religion. La religion, je veux dire, où il est spécialisé, pas sa religion à lui. Ça fonctionne ainsi dans les instituts qui ont la possibilité d'avoir des chaires pour toutes ces religions, ce qui n'est pas le cas, loin d'être le cas toujours. Mais même au mieux, lorsque c'est le cas, comme à l'école des hautes études des sciences religieuses en France, à Paris, la 5e section de l'école des hautes études a à peu près toutes ces religions sont enseignées. Ce sont des juxtapositions de programmes. C'est-à-dire que il n'y a pas une approche axiologique, pardonnez-moi ce mot, une approche axiologique du phénomène religieux quelque part. Or, c'est cela qui intéresse la rationalité moderne. Qu'est-ce que c'est que l'approche axiologique ? De toutes les religions, ou du phénomène religieux dans son ensemble, pour expliquer la spécificité de la sphère religieuse par rapport à d'autres sphères de production du sens dans les sociétés. Eh bien, une des dimensions axiologiques, plutôt deux dimensions axiologiques, qui commencent à toutes les inventions de la modernité matérielle. Boeing, fusée, tout, ça c'est la modernité matérielle. La modernité qui est ici, elle reste conditionnée par les phénomènes de la violence et du sacré. Et c'est tellement vrai que si nous regardons, comme nous devons le faire, avec la rationalité moderne, si nous regardons le fonctionnement de la pensée européenne, il faut toujours revenir à elle, parce que c'est cette pensée-là qui a, jusqu'à présent, dans l'histoire du monde, une fonction hégémonique. C'est pourquoi il faut constamment revenir à elle pour l'interroger sur ses fondements, l'interroger sur ses prétentions, l'interroger sur ses postulats, puisque c'est elle qui prétend constituer, orienter la production du sens sur l'ensemble des sociétés contemporaines. Lorsque donc nous revenons à l'Europe et que nous voyons comment la pensée européenne a fonctionné dans le premier demi-siècle de ce siècle qui est le nôtre, nous constatons que cette pensée n'a pas du tout surmonté ni la violence, ni le sacré. Elle n'a liquidé ni l'un, ni l'autre. Elle nous dit qu'elle a mis de côté ou privatisé la religion, certes, par un acte qui est plutôt un coup de force juridique qu'une avancée scientifique dans la connaissance du religieux. Nous constatons que la pensée européenne n'a pas pu empêcher la Première Guerre mondiale entre des Européens, la Deuxième Guerre mondiale avec tout ce que nous savons, elle n'a pas empêché la production de cette page d'histoire qui a abouti seulement il y a un an à la chute du mur de Berlin. C'est une production de la pensée européenne. L'histoire du communisme, tel qu'il a fonctionné dans l'Europe de l'Est, et tel que nous l'observons, est liée à l'exercice de la violence sacralisée par le discours de la religion laïque qui a été pendant un bon siècle ce que nous avons vécu sous le nom de communisme. Alors vous voyez comment s'élargit le phénomène du religieux et comment le mot religion devient impropre pour nommer de façon adéquate les phénomènes considérables. Non maîtrisés, sont-ils maîtrisables ? Qui se passent dans les lieux mêmes de la production de cette même rationalité moderne qui rejaillit et qui redemande à reprendre le travail là où il faudrait le reprendre pour essayer d'avancer un peu plus, s'il se peut, dans la maîtrise de ce que nous n'avons pas suffisamment considéré jusqu'à présent, la violence et le sacré. Ceci n'est qu'un exemple. Mais le temps passe, hein. Là, vous voyez, c'est un grand sujet. C'est un très grand sujet. Et ce sujet-là, hélas, n'est pas traité de cette manière-là, c'est-à-dire avec ce regard de sérénité, ce regard d'humilité, comme je l'ai dit, qui caractérise, pour faire plaisir aux Français, une laïcité, mais pas la laïcité telle que elle a fonctionné depuis la Troisième République, sûrement pas. Une autre laïcité, celle qui nous permet de faire justement ce travail-là, qui ne se fait pas. Juste un exemple, un autre exemple. Ce grand bruit que font les musulmans depuis une trentaine d'années. Cette véhémence avec laquelle s'expriment ces sociétés. Bruit et véhémence mise au compte de ce que les musulmans eux-mêmes appellent l'islam. Tout cela, malheureusement, ne fait pas l'objet, pour ainsi dire, pas du tout, ici je suis un peu sévère, me diront certains, pour essayer de montrer qu'est-ce qui se passe dans les sociétés dites musulmanes pendant les 30 dernières années. Vous voyez, j'ai dit dites musulmanes. Cela veut dire que le terme islam, que le qualificatif musulman, doivent être éliminés de notre vocabulaire pour parler des réalités fondamentales, des forces réelles, historiques, culturelles, psychologiques, les forces de l'imaginaire social, issues d'une histoire, les forces d'une représentation d'un passé mythologisé à souhait par l'imaginaire social contemporain, pour faire face, car il s'agit de faire face à des pressions intolérables. Pression intolérable de l'histoire qui continue d'être décidée, d'être conduite, d'être manipulée, je ne crains pas d'employer le mot, par une raison occidentale qui n'a pas encore opéré cette critique décisive de la raison que par ailleurs, comme je vous l'ai dit, les chercheurs scientifiques isolés dans la société occidentale elle-même, sont en train de poursuivre. Alors vous voyez, lorsque vous présentez le problème ainsi, vous dépassez totalement et les discours idéologiques qui se tiennent du côté musulman et les interprétations non moins idéologiques qu'en font les occidentaux depuis une trentaine d'années. Et vous voyez ici éclater une contradiction intenable et qui fait souffrir fait souffrir au sens propre, parce que nous vivons des tragédies. Et nous vivons même des guerres, des états de guerre. Nous vivons des logiques de guerre, comme a dit le président français. À cause de cela, la contradiction, c'est l'existence incontestable des lieux de production de la modernité, dans le sens que je vous ai dit, c'est-à-dire d'une modernité qui soulève l'espérance des hommes de ce temps. Ça existe. Mais ce sont des lieux. Ce ne sont pas encore des forces qui soulèvent l'Occident, qui détient l'hégémonie, au point de modifier pour l'ensemble de cet Occident l'exercice de l'hégémonie intellectuelle. L'exercice de l'hégémonie intellectuelle. Car là, gît, à mon sens, tous les malentendus, toutes les fausses oppositions, toutes les dérives d'interprétation. Lorsque dans la tête de chacun d'entre nous, et quotidiennement, comme je l'ai dit au début, se trouve confronté, sans possibilité de les corriger, tout ce qui nous vient d'un lointain religieux et tout ce qui nous vient d'une modernité récente, mais non encore maîtrisée. Et cela, je le crains, est appelé à durer encore, et je terminerai en évoquant un espoir que Jaïd sûrement reprendra dans sa conférence, l'espoir que l'Europe qui est en train de se construire, et une Europe qui s'étend cette fois-ci jusqu'à l'Oural, comme disait quelqu'un, que cette construction d'un espace européen ouvert sur un autre avenir des hommes ne soit pas et ne reproduise pas les errements de la raison hégémonique qui a fonctionné au XVIIIe et XIXe siècle jusqu'aux années 50. Mais que cet espace-là soit le lieu d'avènement, le lieu d'émancipation d'une raison qui sait qu'elle est moderne, au sens où je vous l'ai dit, mais qu'elle est investie d'une confiance nouvelle de par le travail qui lui est demandé pour construire ce nouvel espace d'humanisation de l'homme. Un espace d'humanisation de l'homme. Et non pas d'un homme d'une région culturelle au détriment des autres hommes. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà, à mon sens, vers quoi peut déboucher la modernité telle que, encore une fois, des chercheurs, des intellectuels, des artistes, très nombreux de par le monde, et aussi des citoyens de toutes catégories, pressentent obscurément en eux, portent en eux, expriment dans des œuvres, dans des enseignements, et qui, peu à peu, est en train de se cristalliser en cet avenir qui, sans doute, arrivera plus vite que nous ne pensons. Car qui pensait que le mur de Berlin tomberait si facilement et si vite? Il y a des cheminements souterrains aussi que nous n'avons pas évoquées, que nous n'évoquons pas parce que nous ne les percevons pas, mais qui, espérons-le du moins, et ce sont des paroles d'espérance, nous feront des surprises aussi agréables que celles de la chute des murs de Berlin. Et il y a beaucoup de murs de Berlin qui attendent encore d'être mis par terre. Merci de votre attention.